Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
À ce jour, 12 monuments et sites tchèques figurent sur la liste du patrimoine de l'UNESCO et 2 autres viennent de présenter leur candidature. Et c'est l'un d'entre eux, la Villa fonctionnaliste Müller à Prague, que je vous propose de visiter aujourd'hui. La Villa Blanche, au prime abord austère, se trouve dans le quartier résidentiel de Jechovka, dans le 6e arrondissement de Prague. Son nom n'est pas celui qui l'a fait bâtir, l'architecte Adolf Loos, mais celui pour qui il l'a conçu, son ami František Müller, entrepreneur en bâtiment et copropriétaire de 2 entreprises de construction importantes qui se trouvaient à Plzeň et qu'il a décidé de reporter à Prague. La villa luxueuse devait être une sorte de carte de visite des activités de ces firmes. Adolf Loos, architecte autrichien né à Brno, pionnier de l'architecture rationnelle moderne, auteur de villas célèbres à Vienne et de la maison de Tristan Tzara à Paris, a bâti la villa pragoise de son ami entre 1928 et 1930. C'est ma plus belle maison, c'est là que réside tout le secret de l'architecture, a-t-il écrit en décembre 1930. À la même période, son compatriote et contemporain Ludwig van der Rohe a érigé à Brno la Villa Tugendhat, qui a eu l'honneur d'être inscrite en 2001 sur la liste de l'UNESCO. La Villa Müller, quant à elle, se porte candidate. Quelles sont ses vertus? En quoi elle est exceptionnelle? Des questions posées à Maria Chatkowska, historienne d'art qui sert de guide aux visiteurs de la villa, aujourd'hui en gestion du musée municipal de Prague.
V domě nejsou patra, v domě jsou pouze úrovně. Největší místností v Müllerově vile je společenská místnost. Je takovým
nádherným. Dans la maison, il n'y a pas d'étage, seulement des niveaux. La plus grande est la pièce centrale qui servait de salon. Tout autre est la salle à manger. Plus petite et calme, c'est à quoi correspondent les tons de couleur brune. De même, le boudoir est un intérieur purement féminin, équipé à l'instar des boudoirs baroques ou rococo, dans lesquels la dame avait 2 possibilités d'entrée et de sortie, où elle pouvait inviter ses amis pour prendre un thé ou un verre.
Dans la Villa Müller, achevée 3 ans avant sa mort, l'architecte Adolf Loos a amené à la perfection son concept de rond-plan, consistant dans la suppression traditionnelle des étages et dans le jeu de l'espace. À l'intérieur d'un cube, chaque espace avait des proportions et des hauteurs différentes, suivant son rôle dans la maison, les pièces étant reliées par 2 courts escaliers. La composition spatiale de Loos a justement rompu avec la règle qui voulait que les pièces d'un seul et même étage soient au même niveau. Les intérieurs découpés en segments étaient révolutionnaires, mais élégants et pratiques à la fois. La maison doit servir le confort, a écrit l'architecte en 1910. Pour moi, il n'existe ni les plans, ni les étages, ni les coupes. Il n'y a que l'espace continuel, les étages s'interpénètrent, les différentes zones sont reliées l'une à l'autre. La Villa Müller en fournit un exemple. En entrant, on se retrouve au milieu d'un immense espace équivalent de 2 étages. À côté, il y a la salle à manger, le boudoir déjà mentionné et le cabinet de travail. Ces derniers nous réservent une surprise. Loos, qui refusait toute décoration, a fait sur demande du commanditaire revêtir la cheminée de carreaux blanc-bleu au motif hollandais très éloigné de l'austérité fonctionnaliste de la maison. Des sentiments étranges s'emparent du visiteur dans la chambre d'enfant. Le plancher recouvert de linoléum que l'architecte utilisait également pour la surface des tables était certes hygiénique, mais avec les lits en métal, l'espace produit l'impression d'une chambre d'hôpital. Par contre, le salon oriental au niveau supérieur est très agréable, ainsi que la terrasse. L'originalité de l'intérieur est accentuée par le matériel utilisé, marbre, bois, meubles, faits sur mesure, tissus. De l'extérieur, la façade géométrique avec ses murs nus et les bandes de fenêtres alignées peintes en jaune ne révèle rien sur le concept intérieur de cube de niveaux différents. L'aspect austère est un choix délibéré, une intention du bâtisseur. Il ne devait rien indiquer sur la vie privée de ses habitants. Un cube blond, c'était quelque chose de tout à fait neutre et anonyme. Adolf Loos a refusé la décoration dont abusait le style Art Nouveau de l'époque. Marie Chatkovska nous rapproche sa personnalité.
Nikdy architekturu nedostudoval a žil velmi bohemským životem, zajímal se o veškeré oblasti kultury, rád pobíhal.
Loos n'a pas achevé ses études d'architecture. Tous les domaines des arts l'intéressaient. Il menait une vie de bohème, aimait séjourner à Paris, à Vienne, aux États-Unis, ainsi qu'en Tchécoslovaquie. Il se prenait pour un cosmopolite, un philosophe culturel, pas pour un architecte. Il est l'auteur de nombreux essais et articles sur la mode, les chapeaux, la protection des monuments et aussi, bien sûr, l'architecture. Il était une personnalité épanouie. Sa vie remplirait plusieurs destins, aussi bien ceux d'architecte que d'artiste.
Tento život by naplnil asi několik životů jak architektu, tak i umělců.
Le propriétaire de la villa qui se porte candidate à l'inscription à la liste de l'UNESCO, František Müller, est mort en 1951 et sa veuve Milada a dû céder une partie de la maison aux autorités municipales de Prague. Elle est morte en 1968. Depuis, la villa souffre de dégradation. Elle a servi de dépôt d'objets d'art et de bibliothèque. Jusqu'à 1989, elle abritait l'Institut marxiste-léniniste. En 1991, elle a été restituée à la fille des propriétaires, Eva Maternova, qui vivait au Royaume-Uni. En 1995, la villa a été classée monument culturel national et achetée par la ville, qui en a confié la garde au musée municipal de Prague. Durant son existence, la villa a heureusement évité des dommages majeurs à cause des adaptations. La restauration complète qu'elle a subie a respecté le style d'origine dans les moindres détails. L'infrastructure technique originale conservée, y compris le chauffage et l'ascenseur, l'installation électrique rétablie, les interrupteurs et lustres endommagés remplacés par des copies exactes. Le jardin entourant l'édifice, achevé en 1932, d'après les plans de Loos, a été lui aussi restauré. Aujourd'hui, le visiteur n'a qu'à apprécier la villa, qui apparaît telle qu'on pouvait la découvrir peu après son achèvement. L'ouverture officielle a eu lieu en 2000. La villa est ouverte uniquement sur réservation. Les visites se limitent à 7 personnes.